VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au 13e sommet de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul en Turquie, appel du président turc Recep Tayyip Erdogan aux leaders des pays musulmans, les exhortant à surmonter leurs divergences confessionnelles pour mieux lutter contre le péril djihadiste et apaiser les régions minées par la guerre. Le principal défi auquel nous devons surmonter, c'est le confessionnalisme. Ma religion n'est pas le sunnisme ou le chiisme, c'est l'islam, a souligné le président turc dans son discours d'ouverture de la réunion. Recep Tayyip Erdogan a indiqué que sa proposition de création d'un Interpol islamique, un centre de coopération policière de l'OCI basé à Istanbul, avait été acceptée. Les représentants de 56 pays, dont une trentaine de chefs d'État, comme le président sénégalais Macky Sall, participent au sommet qui a lieu dans un contexte de crise régionale comme les conflits en Syrie et au Yémen. Au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram a envoyé une preuve de vie de ses otages 2 ans après l'enlèvement à Chibok de 276 lycéennes. Un rapt commémoré aujourd'hui par des prières et des manifestations dans tout le pays. C'est aussi l'occasion pour les activistes de demander au gouvernement nigérian d'intensifier les recherches afin de retrouver les captives. Joël Oluwaseum, un résident d'Abuja, nous situe sur l'état d'esprit des Nigérians au moment où la population marque cet anniversaire douloureux.
Il y a d'autres qui pensent que le gouvernement, un jour à un autre, va ramener les filles, mais il y a d'autres qui n'y pensent plus. Alors, si nous voulons voir du côté des parents de ces filles enlevées, c'est vrai que c'est un coup dur pour ces parents, mais cette nouvelle administration veut toujours leur donner une lueur d'espoir parce que l'administration ne cesse de leur dire que le gouvernement est en train de travailler très dur pour ramener les filles. C'est vrai, c'est évident que les terroristes ont ces derniers jours subi beaucoup de défaites de la part des militaires nigériens. Mais alors, on se demande, avec ce système militaire sur le terrain, pour le moment, on attend toujours voir ce qui va se passer.
Joël Oluwaseum à Abuja, au Nigeria. Au Tchad, 4 dirigeants de mouvements de la société civile tchadienne arrêtés avant l'élection présidentielle de dimanche dernier ont été condamnés ce jeudi à N'Djamena à 4 mois de prison avec sursis. Mahamat Nour Ahmed Ibedou, Younous Mahadjir, Nadjo Kaina Palmer et Céline Normadji ont été libérés dans la journée. Le cas d'un 5e leader de la société civile, arrêté plusieurs jours après les autres, fera l'objet d'une audience ultérieure. Les 4 opposants étaient poursuivis pour provocation à un attroupement non armé, tentative d'atteinte à l'ordre public et opposition à l'exercice d'une autorité légitime, après avoir appelé à manifester contre la candidature du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans à un 5e mandat. Mais un seul chef d'accusation, attroupement non armé, a été finalement retenu par le tribunal. Par ailleurs, les Tchadiens continuent d'attendre les résultats provisoires de la présidentielle du 10 avril, qui mettait aux prises le président Idriss Déby Itno et 12 adversaires. L'opposition persiste à dire que le scrutin a été émaillé de nombreuses irrégularités. C'est le cas pour le Parti pour les libertés et le développement, le PLD. Écoutons son candidat à la présidentielle, Mahamat Ahmad Al-Habo.
Le code électoral explique que les listes électorales doivent être affichées 3 jours à l'avance. Ils n'ont pas voulu respecter cette disposition. Ils ont affiché ça le jour du vote. Beaucoup de gens n'étaient pas capables de trouver où se trouvait leur bureau de vote pour voter. Plus grave, la CENI a refusé de façon délibérée d'envoyer des procès-verbaux de vote dans beaucoup de villages, dans beaucoup de bureaux de vote. Autre chose, plus grave, nous avons constaté le premier jour du vote, c'est-à-dire le 9, les militaires ont voté de façon non transparente, non libre, parce que les officiers étaient là et imprimaient l'ordre aux votants de prendre tel ou tel candidat. Quelques assez téméraires ont refusé d'obtempérer. Ils ont été battus, molestés et arrêtés. Nous avons aussi constaté beaucoup d'ingérences, ne soit des autorités administratives, des militaires, des autorités traditionnelles, les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de carré, les délégués. Et tout ce monde-là s'est ingéré de façon ostentatoire pendant le processus du vote.
Mahamat Ahmad Al-Habo, candidat du Parti pour la liberté et le développement à la présidentielle tchadienne du 10 avril.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, un collectif d'ONG baptisé Tournons la page a exigé hier la fin des violences dans le pays et l'instauration d'un dialogue pour sortir de la crise post-électorale née, selon cette coalition, de la victoire contestée du chef de l'État Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 20 mars. Les précisions de John Lindon.
Dans un communiqué, la coalition Tournons la page exige l'arrêt immédiat des opérations militaires en cours dans le département du Poul, de même que le retour des soldats déployés sur le territoire dans leurs casernes et bien sûr l'ouverture d'un dialogue franc et sincère entre les acteurs politiques pour solder le contentieux sans faire appel aux armes. Le gouvernement a accusé le pasteur Ntoumi, ancien rebelle originaire du Poul, d'avoir commandité une attaque terroriste contre plusieurs bâtiments publics. Refutant cette version, certains opposants accusent le pouvoir d'avoir commis un montage pour étouffer toute velléité de contestation des résultats officiels. M. Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans de pouvoir au Congo, a obtenu un changement de constitution validé par un référendum qualifié de coup d'État par ses détracteurs. Il a ensuite fait avancer au 20 mars la présidentielle prévue en juillet. Le 4 avril, la Cour constitutionnelle a validé les résultats officiels, donnant le chef de l'État sortant vainqueur dès le premier tour, avec plus de 60% des voix, ce que 5 des candidats d'opposition unis par un pacte anti-Sassou ont qualifié de forfaiture.
Congo-Kinshasa, la fièvre jaune qui frappe l'Angola depuis décembre 2015 a gagné la RDC voisine. Une vingtaine de cas sont déjà confirmés tant par l'OMS que par les autorités congolaises démocratiques. Des détails avec Nani Talani.
Pour le docteur Benoît Kebela Ilunga, directeur chargé de la lutte contre les maladies épidémiologiques au ministère de la Santé à Kinshasa, toutes les personnes atteintes sont des Congolais malades venus d'Angola et qui sont rentrés au pays pour se faire soigner. Il n'y a aucun cas autochtone. Aucune personne n'a encore contracté la maladie sur le territoire congolais. Pour contenir l'épidémie, les autorités congolaises ont renforcé la surveillance à la frontière avec l'Angola et à l'intérieur du pays. Les services de santé ont aussi entrepris une campagne de sensibilisation pour encourager les populations à éviter la prolifération des moustiques, vecteurs de la fièvre jaune, et à utiliser des moustiquaires imprégnés. Malgré toutes ces précautions, le risque de voir l'épidémie de la fièvre jaune se développer n'est pas totalement exclu.
Actualité hors d'Afrique maintenant, le 40e rapport annuel du département d'État américain sur les droits humains dénonce une crise mondiale de la gouvernance qui se traduit par une multiplication des attaques contre les libertés fondamentales et les valeurs démocratiques. Le point avec Timothée Donangmaï.
Le rapport accuse des régimes autoritaires à travers le monde de réprimer leur peuple avec une vigueur et une méchanceté croissante. Le secrétaire d'État John Kerry note dans le préambule une tendance croissante de la part à la fois d'acteurs étatiques ou non de contraindre l'espace de la société civile, d'étouffer la liberté des médias et d'Internet, de marginaliser les voix d'opposition et, dans les cas les plus extrêmes, de tuer des gens ou de les forcer à quitter leur foyer. Le document du département d'État épingle en particulier des pays comme la Russie et la Chine, tout comme la Corée du Nord, l'Iran, le Soudan, mais il n'épargne pas les alliés des États-Unis comme la Turquie ou l'Égypte. Compilé par des diplomates américains, le rapport n'a aucune implication légale pour la politique étrangère américaine. Cependant, selon John Kerry, il renforcera la détermination des États-Unis à promouvoir les libertés fondamentales et à soutenir les groupes que Washington considère comme des défenseurs des droits de l'homme.
Du sport pour terminer, l'ancien international ivoirien de football Didier Drogba a annoncé aujourd'hui son intention de poursuivre en justice le Daily Mail pour un article dans lequel le tabloïd anglais accuse sa fondation de n'avoir utilisé pour la bonne cause qu'une infime minorité des dons récoltés en Grande-Bretagne. 17 700 euros seulement pour l'Afrique sur les plus de 2 100 000 euros récoltés par la fondation. Merci pour votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.